Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM. Bonsoir et bienvenue dans Politiquement, votre émission politique mensuelle, hein, une émission imaginée par les acteurs sociaux du centre Goscinny et Oudiné, une émission qui a pour but de faire en sorte que tout le monde puisse parler de politique avec les personnalités politiques. C'est la première de la saison, c'est la rentrée. On vous a quitté avec un épisode avec Abdoulaye Kanté, que d'ailleurs je vous invite à aller réécouter sur notre site monparisfm.com. En attendant, aujourd'hui c'est un nouvel épisode. L'invité, vous allez le découvrir dans un instant. Autour de moi, il est tout nouveau, il est tout frais, il est tout beau, tout souriant, il s'appelle Bigad, comment ça va ?
Ça va, très bien, Abou, et toi, comment ça va ?
Ben moi je vais bien, Bigad, est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas ?
Alors moi, très simple, je m'appelle Bigad, j'habite le 13e, je suis un jeune étudiant au lycée Gabriel Fauré, et pour l'instant tout se passe bien.
Tout se passe bien, en face de Bigad, Laura, comment ça va ?
Ça va super, et toi ?
Première également dans Politiquement Vôtre, Laura, qu'on a déjà pu entendre à travers d'autres émissions via son Flash Info. Est-ce que tu peux te présenter ?
Alors, je suis Laura, j'ai 23 ans, je viens d'être diplômée d'un master de journalisme à l'EGICAM et Sciences Po à Aix, et j'entame un service civique ce mois-ci à Mon Paris FM.
Et ça va, ça se passe bien ?
Très bien pour l'instant.
Pour l'instant. Et lui, on le présente plus, mais on va le présenter quand même. Hein. Journaliste, figure emblématique de Mon Paris FM, figure emblématique du 13e arrondissement de Paris, figure emblématique même de la politique, figure emblématique chez les Iraniens. C'est Alborz. Comment ça va, Alborz ?
Salut à toute l'équipe, à vous, les copains, comment ça va ? Très content d'être là pour cette première de la saison.
Ça va, ça t'a passé un bel été, Alborz ?
J'ai passé un très bel été, j'en profite pour saluer notre invité Arash, que je connais un peu. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se dire plein de choses.
Bah, on va essayer en tout cas de se dire plein de choses. Politiquement Vôtre, saison 3, épisode 1, c'est maintenant. Avocat, écrivain et homme politique français d'origine iranienne, il est surtout connu pour son engagement en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Membre du parti Les Républicains, il est élu conseiller municipal de Courbevoie, une commune située dans la région parisienne. Il est particulièrement connu pour sa campagne en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il a été à l'origine d'une pétition et d'une proposition de loi pour l'interdiction du gaspillage alimentaire en France. Son action a d'ailleurs conduit à la promulgation de la loi de février 2016 qui interdit la destruction des invendus alimentaires en consommable. Au-delà de ça, il est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Comment peut-on être de droite aujourd'hui ?» paru en 2006, ou encore « Manifeste contre le gaspillage » paru en 2015, dans lequel il expose les raisons pour lesquelles il s'est engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il a reçu en 2019 en Suède l'équivalent du prix Nobel pour le développement durable. Il devient à cette occasion le premier Français à obtenir ce prestigieux prix international. Vous l'aurez compris, un acteur important dans la sensibilisation du public et des responsables politiques à la problématique du gaspillage alimentaire en France, avec des actions qui ont contribué à des changements significatifs dans la législation française et ont inspiré des efforts similaires dans d'autres pays. Arash Derambarche est notre invité. Comment ça va, Arash ?
Bonjour et merci pour votre invitation. Et je suis désolé de ne pas être sur le plateau avec vous. C'est les aléas du boulot où j'ai un de mes clients qui est déféré malheureusement au tribunal judiciaire de Bobigny, vous voyez. On n'arrête pas le progrès.
On vous en veut pas, merci d'honorer du moins l'invitation par téléphone. Arash, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà ?
Alors, je suis avocat au barreau de Paris et je suis adjoint au maire dans la ville de Courbevoie. J'ai eu un parcours scolaire un peu chaotique où j'ai redoublé 9 fois dans mes études et à force de travail, d'acharnement, j'ai continué à obtenir mes diplômes pour devenir avocat ensuite. Et en parallèle de ça, j'étais malheureusement bénéficiaire au Resto du Cœur. Je vivais seul dans mon appartement de 20 mètres carrés. Et donc, du coup, qu'est-ce qui m'a traversé l'esprit ? Je me suis dit, je vois beaucoup d'aliments tomber dans les poubelles. Et que ces aliments étaient javelisés, malheureusement. Donc, je suis allé avec mon association réclamer les invendus alimentaires au supermarché. Et les supermarchés ne voulaient pas me les donner. Donc, du coup, je suis allé solliciter tous les parlementaires, avec l'aide notamment de Mathieu Kassovitz, pour qu'on puisse obtenir une loi assez rapidement. Et la loi, elle a été obtenue rapidement puisque le 3 février 2016, la loi a été votée. C'est une loi qui oblige les supermarchés de plus de 400 mètres carrés à redonner leurs invendus alimentaires aux supermarchés, aux associations de leur choix.
On va refaire, merci pour cette présentation, on va refaire votre parcours, on va un peu décortiquer petit à petit. Vous êtes né donc le 25 juillet 79 ici à Paris dans le 13e arrondissement. Vos parents, ils ont fui le régime islamiste afin que votre frère jumeau et vous puissiez grandir dans la démocratie. Elle ressemble à quoi l'enfance d'Arash Derambarch?
Une enfance très heureuse, dans de très belles valeurs. Mon père était réalisateur et ma mère était aussi artiste et on a vécu avec beaucoup beaucoup de valeurs. On faisait du football, on jouait du football au Stade Suffren dans le 15e. Et on allait à l'école, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'internet. Donc du coup, c'était les jeux très spontanés. Et il n'y avait pas besoin de superficialité dans les relations. Et lorsqu'on donnait rendez-vous à quelqu'un, on ne pouvait pas arriver en retard, évidemment, parce que la personne sinon partait. C'est plus comme aujourd'hui, quand on envoyait un SMS, on se dit « j'ai 5 minutes de retard ».
Début janvier 2008, vous connaissez une notoriété soudaine en affirmant avoir été élu président de Facebook. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet épisode?
Mais ça, c'était une farce. C'était déjà les premières fake news. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Et j'avais fait ça avec des copains. On s'était marré. C'était en 2008. Et c'était assez drôle parce qu'on était invités sur tous les plateaux de télé pour parler de cette élection qui était une fausse élection, hein, mais c'était un jeu. En fait, l'élection, elle existait parce que c'était les applications, vous savez, sur Facebook, il y avait plein d'applis au départ. Mais donc, nous, on avait rigolé, on avait dit que c'était un jeu qui était en fait un vrai jeu officiel et qui n'était pas un vrai jeu officiel, c'était juste une appli. Et comme personne ne vérifiait quoi que ce soit, donc on était invités sur tous les plateaux, c'était assez rigolo.
Vous êtes aussi également connu pour avoir, en tout cas, c'est ce qui est dit, vous me direz d'ailleurs, là, vous allez me dire si c'est vrai ou faux, pour avoir redoublé 9 fois.
Alors ça, c'est pas faux, parce que c'est parce que je l'ai écrit dans un livre. J'ai redoublé les années du collège, du lycée, de la fac. Et c'est pas du tout faux, parce que j'en ai fait un livre qui a été publié aux éditions de Cherche Midi, tombé 9 fois sur Relevé 10. Et je parlais de ces événements de ma vie par rapport au parcours de plusieurs jeunes en France qui parfois galèrent et qui se disent « j'y arriverai pas ». Et ben en fait, si, tu peux y arriver si tu y crois.
Vous étiez quel genre d'élève à l'école?
Je n'étais pas un bon élève. Je travaillais beaucoup pour compenser le mauvais niveau que j'avais. Je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que j'avais un objectif, c'était de devenir avocat. Mais par le travail, pas par même en m'amusant. Et d'ailleurs, soit dit en passant, avec ce travail, je suis même devenu prof. Et j'étais même le prof de Alborz.
Oui, Alborz qui vous connaît, c'est ça. Et il se demandait si vous alliez le reconnaître.
Alborz, il me connaît parce que j'étais son prof.
C'est ça. Et c'est d'ailleurs Alborz qui permet aujourd'hui. Oh, c'est Alborz qui nous permet aujourd'hui de vous avoir ici à l'antenne. Alborz, comment toi t'as connu Arash?
Alors moi je l'ai connu de mémoire, je crois que c'était en 2009, justement à l'époque de ce concours. Après le microcosme un peu, si tu veux,
des...
Oui, il y a Alborz qui nous expliquait comment il vous avait connu.
et donc c'est vrai que
le... retard au premier cours.
Il dit que t'as été en retard au premier cours.
Oui, lui il a été en retard aujourd'hui à Arash. voilà, un partout balle au centre. Mais effectivement, il était aussi parfois intervenant à l'ESJ. Et moi je l'ai connu parce que effectivement à l'époque, dans le microcosme et dans le paysage français, voir quelqu'un de franco-iranien comme soi, c'était assez rare. Et c'est vrai que Arash a fait partie de ses premiers, justement. Et même on se souvient en 2009, lors de la révolution iranienne, la révolution verte, il a fait partie aussi de ces porte-paroles là. Il a été la voix des Iraniens à travers le monde et notamment à travers la France.
Qu'est-ce qui t'inspire, toi, aujourd'hui? Son parcours, il t'inspire quoi?
Non, mais Arash, c'est quelqu'un d'inspirant, on le sait. Il aime faire beaucoup de choses, peut-être même parfois trop de choses, mais c'est ce qui le caractérise, justement. C'est un boulimique de travail. Si vous le voyez pas au barreau, vous pouvez le voir au Parc des Princes. Si vous le voyez pas au Parc des Princes, vous pouvez le voir donner une conférence quelque part. Sinon, faire une distribution pour la rentrée scolaire dans sa ville. Donc, c'est quelqu'un qui est actif.
Et toi, Bigad, quelqu'un qui a redoublé 9 fois et qui a fini par réussir à être ce qu'il est, ça t'inspire quoi en tant que jeune?
Qu'il est marqué par sa détermination, qu'il a un but qu'il veut l'atteindre. Si je peux lui poser la question, à certains moments, vous n'avez pas douté de vous-même, de vos capacités, de réussir?
Non, j'ai pas douté du tout. Vous accusez le coup, mais vous ne doutez pas. Parce que si vous doutez, c'est fini, c'est terminé. Il faut jamais douter. Il faut avoir un objectif. Il faut garder cet objectif dans la tête. Mais pas à n'importe quel prix. Le seul prix à payer, c'est le travail. La détermination et l'audace. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Et tout paye. Quand on veut, on y arrive toujours.
Vous n'étiez pas épuisé? Il n'y avait pas des gens autour de vous qui vous décourageaient, qui croyaient
mais
pas
bien
en
sûr,
vous?
Les gens qui vous découragent, en réalité, parfois, ils sont beaucoup plus subtils. Ils vous disent, mais il faut que tu aies un plan B. Il faut que tu aies un plan C. Mais imagine que tu n'y arrives pas. Qu'est-ce que tu fais derrière? Ça, ce sont des discours négatifs. Voilà, si tu veux y arriver, tu te mets tout là-dessus. Il n'y a pas de plan B, plan C.
Et vous êtes servi de ces discours pour réussir? Ou vous les ignoriez
bien
seulement?
Bien sûr. Mais je le dis toujours, d'ailleurs, dans toutes mes conférences, il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais lâcher. Vous aurez toujours des gens qui seront des malveillants, parce que ça, c'est un sport national aussi dans notre pays, la malveillance, ou les gens qui sont négatifs. Faut pas tomber dans tout ça. Croyez en vous. D'ailleurs, je suis né pas très loin d'ici. Hein. Je suis né à la Salpêtrière, moi.
C'est ça. 10 minutes là du centre du Né.
Et d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que j'y suis retourné dans le 13e il y a à peine quelques jours. J'étais le 9 septembre dernier où j'ai célébré un mariage parce que je suis aussi adjoint au maire, donc en tant qu'officier d'état civil, on peut célébrer des mariages partout. Et donc j'ai célébré un mariage avec l'adjointe au maire. Qui est ma collègue Daniel Seigneau, qui est l'adjointe au maire dans le 13e arrondissement. On a co-célébré un mariage pour un petit que j'ai vu grandir à Courbevoie. Donc voilà, donc je suis très heureux parce que j'ai l'impression de servir à quelque chose aujourd'hui et de renvoyer l'ascenseur à la France, un pays qui m'a beaucoup donné.
Laura, une question pour vous.
Oui, bonjour déjà et merci beaucoup.
Bonjour mademoiselle.
Bonjour. Je voulais vous demander, mais je pense que Abou Bakar va en parler, compter en parler. Je voulais vous demander si aujourd'hui, est-ce que c'est toujours difficile de, par rapport, enfin, je voulais évoquer l'épisode malheureux, on va dire, de la thèse que vous avez dû soutenir et qui a malheureusement été annulée, à l'issue de votre cursus à l'université Paris, Panthéon La Sorbonne. Je voulais savoir actuellement où est-ce que vous en étiez concernant cette
histoire. Cette histoire est un énorme bluff. J'ai vraiment rarement vu un truc aussi sordide et scandaleux.
Et c'est bien que vous nous en parliez. Arash, je vais juste revenir dessus rapidement et je vous laisse ensuite dérouler. Le 27 avril 2021, l'Ordre des avocats de Paris prononce en formation disciplinaire votre radiation du barreau. Il vous est reproché des manquements aux devoirs de dignité, de conscience, de probité, d'humanité, d'honneur, de loyauté, de courtoisie, en ayant frauduleusement dissimulé lors de la procédure d'inscription au barreau de Paris et que le certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'avait pu être obtenu que sur le fondement d'une thèse obtenue par fraude. Vous vous dites que c'est un énorme bluff. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette affaire?
Sur cette affaire, d'abord, j'ai déposé une plainte pour escroquerie au jugement, dénonciation calomnieuse.
C'est bien de le rappeler.
Et faux, et usage de faux en écriture publique. Et je vais m'y expliquer. Comme la grande majorité des gens qui voulaient me déstabiliser étaient dans l'incapacité de venir combattre avec moi sur le plan des idées et de mes actions, ils se sont dit, on va aller sur le parcours d'Arash en Barche, on va essayer de trouver quelque chose. Ils se sont dit, on va trouver dans sa thèse des copier-coller, ce qui s'apparente à du plagiat. Le plagiat, c'est ce qu'on appelle la contrefaçon. Il s'avère que j'avais soutenu une thèse le 11 décembre 2015 sur les fichiers de police. L'université de Paris 1 Sorbonne, donc mon directeur de thèse, les membres de mon jury de thèse, notamment une procureure de la République qui était mon rapporteur Anne-Dominique Merville. Elle est magistrate aujourd'hui au tribunal judiciaire de Nanterre. Elle est procureure de la République. J'avais dans ce jury des personnes assez éminentes. Toutes ces personnes ont considéré, il y avait 5 personnes, 5 membres de mon jury, dont mon professeur de directeur de thèse à la Sorbonne, ont considéré que ma thèse était soutenable, pas de problème. Je soutiens ma thèse, l'université Paris-Sorbonne me donne le feu vert. Et c'est pas moi qui le donne le feu vert, c'est eux, avec énormément de garde-fous. Donc vous avez un directeur de thèse, vous avez 2 rapporteurs, vous avez 5 membres du jury, vous avez une école doctorale, vous avez une université, tous disent pas de problème. Je soutiens ma thèse de droit, j'obtiens, je deviens docteur, je prête serment comme avocat. Aucun souci, je milite contre le gaspillage alimentaire, je fais beaucoup d'émissions, comme vous l'avez précisé, je fais signer 2 pétitions, une française et une européenne, soutenues par la Croix-Rouge française d'Action contre la faim et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Je suis désigné pour avoir l'équivalence du Nobel du développement durable en 2019, qui est le prix Win-Win, parce que je fais passer la loi en 2016 en France, mais je la fais passer aussi dans 10 pays dans le monde, pour que des gens puissent manger. Et puis on trouve une thèse, dans le cadre de ma thèse, on trouve des fraudes, soit supposées. Sauf que voilà, c'est ça qu'on ne vous dit pas, c'est que la thèse en réalité, qu'on appelle un plagiat, sera sans plagier. Et pourquoi sans plagier? Parce que tous les supposés plagiés vont me faire des attestations pour me dire « Ah non, pas du tout, nous on a vu votre thèse, on est tout à fait cité partout. » Donc on se retrouve en fait avec un plagiat sans plagier. Première chose. La deuxième chose, mon directeur de thèse va être auditionné pendant cette procédure disciplinaire. Il va retrouver dans la décision de la Sorbonne que vous avez citée tous ses propos altérés, déformés. C'est-à-dire que mon directeur de thèse va dire « Non mais en fait, il n'y a pas du tout de plagiat, nous on a tout vérifié, il n'y a pas de problème. » Il va retrouver dans sa thèse, dans la décision pardon, de la Sorbonne, le contraire de ce qu'il dit. Tout ça pour me charger. Ça va être en réalité un cumul de tout ce genre de choses. On va refuser par exemple, on va écarter tous les témoignages des gens qui sont venus pendant ma soutenance de thèse, des professeurs d'école par exemple, qui diront « mais non, mais pas du tout, Arajan Marche a cité tous les auteurs ». Tous ces témoins-là, on va les écarter. Voilà. En réalité, c'est quoi l'histoire? Je vais vous raconter ce que c'est l'histoire. Tenez-vous bien. En 2015, la Sorbonne va perdre 298 thèses. Il y a eu un bug informatique au niveau de la Sorbonne. 298 thèses vont être évaporées au sein de l'école doctorale de la Sorbonne. Et donc, la Sorbonne a essayé de trouver des boucs émissaires. Ils sont tombés sur ma thèse. Voilà. Malheureusement, j'ai interjeté appel. La décision de la Sorbonne a été cassée par le CNESER, donc l'équivalent de la cour d'appel. Et l'ordre des avocats m'a jugé. L'ordre des avocats, tenez-vous bien, présidé par Pierre-Olivier Sûr, qui est un avocat. Et cet avocat, je vais le savoir quelques semaines plus tard, sans qu'il me le dise, je vais découvrir qu'il est l'avocat de la Sorbonne. Donc le jugement que vous venez de me citer a été rendu par quelqu'un qui est l'avocat de la Sorbonne et qui facture à la Sorbonne de l'argent. Ce qu'on appelle une atteinte à l'impartialité. Vous voyez ? Et tout ça, évidemment, je l'ai donné à la Cour d'appel de Paris qui va statuer bientôt. Et on verra qui dira quoi. Voilà.
Mais du coup, notamment dans les médias, on peut apercevoir que le taux de plagiat est de 76%. Du coup, ce taux, comment est-ce que...
Ce taux est descendu.
Il a été analysé comment, selon vous?
Mais on ne sait même pas. C'est comme si moi, voilà, vous sortez en boîte, vous rentrez à la maison, vous faites un test d'éthylomètre, voilà. On vous teste sur votre taux d'alcoolémie. Moi, je ne vais pas vous dire avec quel outil je vais vous tester. Je vais vous dire, voilà, venez, voici une paille. Vous allez souffler dedans et je vais mettre un taux imaginaire. Et je vais dire, mais c'est ce taux-là qui est le bon. Vous allez dire, mais quel est l'outil? Quelle est la marque? Est-ce que cet outil est certifié par l'État? C'est normal. En réalité, je ne saurais même pas quel est l'outil. Je ne saurais même pas qui a fait les vérifications d'ailleurs. On va vous dire voilà 76%. Il s'avère que ce taux de 76% va descendre à 30% à la cour d'appel. Donc il y a une différence de 46%. Et les copier-coller, en réalité, c'est juste normal puisque j'ai intégré des rapports. Parce que c'est les fichiers de police. Donc j'ai intégré des rapports. Et ceux qui sont les auteurs de ces rapports, notamment le professeur Alain Bauer, me feront des attestations pour me dire que je les ai cités. Voilà.
Mais vous avez du coup... Pardon, Abou. Vous avez bien soutenu votre thèse. Elle n'a jamais été annulée. Vous l'avez soutenu en 2015.
La thèse, elle a été annulée. Mais du coup, j'ai fait appel de ça.
Ok.
On va pas faire long là-dessus, on n'est pas venu pour vous faire parler de ça, mais l'éclaircissement il est important et on vous remercie.
Pour moi, c'est une véritable cabale, voilà.
C'est ce que j'allais vous demander, comment vous vivez tout ça, vous, aujourd'hui, à titre personnel?
C'est très serein, vous savez, je suis très serein, j'ai l'habitude des attaques, mais si on veut venir me chercher sur ce terrain-là, je sais répondre, voilà.
Bigad a une question pour vous.
C'est par rapport à ce qui a été mis en place récemment dans les établissements scolaires, notamment les lycées et collèges. Ouais. Par rapport aux éco-délégués, vous qui détestez le gaspillage, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme dans les lycées et collèges?
Vous me parlez de la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est ça?
C'est ça, parce qu'en fait, dans les lycées et collèges, maintenant, on a des élections pour des élèves, on les appelle les éco-délégués. Bon, il y a 2-3 formations qui sont faites dans l'année. À titre personnel, moi qui suis dans un lycée, je trouve pas que certaines formations qui sensibilisent que certains élèves puissent modifier, ne serait-ce qu'un peu, le recyclage, etc. en France.
Je voudrais vous dire une chose très importante là-dessus. D'abord, là, vous me parlez de la lutte contre la faim. Parce qu'un étudiant qui ne peut pas manger ne peut pas étudier. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus autour de la table.
Oui,
totalement.
La deuxième chose, c'est une atteinte claire pour moi au principe d'étudier, et c'est une atteinte grave au principe d'égalité qu'il doit y avoir entre chaque étudiant. Les enfants, les étudiants, ils n'ont pas choisi d'être pauvres ou d'être riches. Par contre, on leur donne le droit d'étudier. Mais pour qu'ils étudient, il faut qu'ils aient le ventre rempli. Nous, ce qu'on a fait, d'abord, moi, ce que j'ai fait personnellement, d'abord, j'étais à l'origine de la loi contre le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'il oblige les supermarchés à ne plus jeter la nourriture dans les poubelles, mais qu'il les redonne aux associations caritatives. C'est 10 millions de repas distribués chaque année depuis 2016. Une hausse de plus de 22% du don alimentaire aux associations caritatives. Première chose. La deuxième chose, il fallait faire appliquer la loi. Donc du coup, je suis parti avec des huissiers de justice, avec des lanceurs d'alerte, faire appliquer la loi. On a fait condamner plusieurs supermarchés parce qu'ils ne respectaient pas la loi sur le gaspillage alimentaire et qu'ils continuaient à jeter les aliments dans les poubelles avec l'eau de Javel. Troisième chose, il fallait faire compléter la loi. Donc du coup, à partir du 1er juillet 2020, il y a eu l'application du doggy bag, ce qu'on appelle pour les restaurants. C'est-à-dire que quand vous venez au restaurant, peu importe lequel, le restaurateur est dans l'obligation de vous donner un doggy bag. Quatrièmement, il y a eu des lois qui ont complété. C'est-à-dire qu'au départ, la loi sur le gaspillage alimentaire, la sanction était 3 750 euros. On est monté à 10 000 euros maintenant. Si le supermarché continue à jeter la nourriture, il ne veut pas le donner aux associations. Par la suite, il fallait que moi, je puisse la faire étendre, cette loi. Donc, j'en ai parlé avec le maire de Courbevoie. On en a fait un programme politique. On s'est dit que sur un mandat de 6 ans, on allait mettre en place des chartes. Et c'est ce que j'ai fait depuis que je suis devenu adjoint maire en charge du développement durable à Courbevoie. La première année, on fait appliquer la charte sur les supermarchés. La deuxième année, on a fait la restauration hospitalière. La troisième année, sur la restauration scolaire. Donc, je vais répondre à votre question. Et sur la restauration scolaire, on a mis en place plusieurs outils qui sont extrêmement efficaces. Le doggy bag, mais également un partenariat avec une association. Donc pour que chaque école, par exemple, puisse appliquer la lutte contre le gaspillage alimentaire, il y a les tables de tri, mais également, il y a un peu de bruit dans la voiture. Il y a également ce qu'on appelle les partenariats avec des associations caritatives. Et le problème de ce que vous citez, en réalité, c'est est-ce qu'une école, potentiellement, peut accepter qu'un étudiant puisse manger ou pas manger, en réalité.
Par rapport aux éco-délégués?
Bien sûr, vous savez qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas de sous pour manger. Donc du coup, on a fait des partenariats, notamment avec l'application Linky, notamment avec des startups comme Fullsoon, comme Phoenix, notamment. Et je trouve que toutes les écoles devraient faire ce genre de partenariat. Et il y a un point également qui serait très important d'intégrer, c'est le manque de pédagogie également. C'est-à-dire qu'on ne fait pas suffisamment de pédagogie sur cette notion de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Mais justement, Arache Desrambarche, comment on sensibilise les jeunes comme Bigad à cette lutte contre le gaspillage alimentaire?
La pédagogie, elle passe d'abord par l'État, par la région, mais également par les associations. Là, par exemple, cette loi, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment appliquée, pas parce qu'elle est pas, parce que les gens n'ont pas envie de l'appliquer, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment au courant, informés. Je vais vous donner un élément qui a eu lieu dans l'actualité il y a quelques semaines. C'est l'appel, vous vous rappelez, de Restos du Cœur.
Oui, les Restos du Cœur qui n'avaient pas assez de fonds.
Voilà, les Restos du Cœur ont dit qu'ils n'avaient pas suffisamment de fonds pour pouvoir redistribuer des invendus. Ça, c'est absolument une fake news. C'est une fake news totale. Pourquoi ? Parce qu'avant la loi sur le gaspillage alimentaire, nous n'avions donc que quasiment pour les associations qu'on appelle agréées. Les associations agréées, c'est ce qu'on appelle les Restos du Cœur, la Banque alimentaire, le Secours catholique, le Secours populaire, par exemple. Depuis la loi du 3 février 2016, on a ce qu'on appelle les associations habilitées. Les associations habilitées, c'est la vôtre, c'est la mienne, c'est ce qu'on peut créer, qu'on va faire habiliter au sein de la préfecture. Et on met dans l'objet social, lutte contre le gaspillage alimentaire, n'importe qui peut le faire, et ensuite faire les maraudes. Je pense qu'ici, autour de la table, beaucoup ont fait des maraudes. Certains de vos auditeurs le font aussi. Avec votre association caritative, vous pouvez le faire. Donc les Restos du Cœur qui disent qu'on n'a pas suffisamment de moyens, c'est faux, c'est absolument faux. Si vous faites appliquer la loi sur le gaspillage alimentaire, qui coûte 0 euro aux contribuables, il y aura suffisamment d'invendus alimentaires. Suffisamment.
Ça vous a choqué, vous, par exemple, si vous estimez que ce que les Restos du Cœur ont dit était une fake news, est-ce que ça vous a choqué par la suite qu'il y ait des dons, par exemple, à hauteur de 10 millions d'euros? Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous a choqué?
Bien sûr, mais tout ça, c'est du business. C'est du business, parce qu'en réalité, on a fait des dons pour qui? Pour les Restos du Cœur, pour qui d'autre? Pour deux, trois autres associations. Mais la grande majorité des associations en France, ce n'est pas ces associations-là, ce sont des associations qui sont celles, par exemple, peut-être de Halbors, la vôtre, ou d'autres. Voilà.
Est-ce que je peux vous poser une question?
Je vous en prie.
La loi Garot, du coup, du février 2016, elle concerne...
C'est pas la loi Garot.
La loi sur le gaspillage.
Garot s'est approprié. Mais M. Garot s'est approprié avec son nom, avec celle de Ségolène Royal, cette loi. Ils n'ont pas du tout été impliqués sur cette loi. Je suis désolé de le dire, mais moi, je déteste en réalité les appropriations de loi quand d'ailleurs on ne fait rien.
Voilà. Alors, excusez-moi, du coup,
C'est la loi contre le gaspillage alimentaire.
Contre le gaspillage alimentaire de 2016. Elle concerne les associations agréées et aussi habilitées ou simplement les associations agréées? Elle concerne toutes les associations.
Non, c'est toutes les associations qui souhaitent aller récupérer les invendus alimentaires auprès des supermarchés de plus de 400 mètres carrés.
Et du coup, comment est-ce que vous avez pu établir que les Restos du Cœur avaient encore...
En réalité, je vais vous dire, c'est une très bonne question. Cette loi, elle vient à partir d'une expérience personnelle que moi j'ai eue via mon association Courbevoie 3.0. En 2014, je suis allé demander au Monoprix rue de l'Abreuvoir, qui est un supermarché de plus de 400 mètres carrés, mes invendus alimentaires. On m'a la refusé. Pourquoi? On m'a dit, voilà, on m'a prétexté que je ne pouvais pas récupérer les invendus alimentaires à cause de la rupture de la chaîne de froid. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec des nutritionnistes et les législateurs, on a établi une loi qui permet, tenez-vous bien, ce qu'on appelle la redistribution immédiate. J'ai pas la logistique, je n'ai pas la chaîne de froid, très bien. Mais si je viens récupérer les invendus alimentaires à 19h-20h, comme vous pouvez le faire vous-même d'ailleurs, et que vous allez redistribuer, dans les 3-4 heures, il ne peut pas y avoir de rupture de la chaîne de froid. Donc du coup, les Restos du Cœur qui ont par exemple des camions réfrigérateurs, eux, ils peuvent par exemple maintenir les invendus alimentaires toute une journée ou 48 heures par exemple. Contrairement à la grande majorité des associations habilitées qui prennent les invendus alimentaires et qui la redistribuent le soir même, immédiatement.
D'accord, donc en fait, cette loi, elle permet davantage de prioriser, entre guillemets, les associations qui sont agréées.
Les petites
parce qu'elles ont les moyens, justement, techniques de pouvoir...
Elles ont l'encadrement légal.
Arrache, on va juste, si ça vous dérange pas, on va marquer une courte pub, une courte pause, et on revient...
Il faut vous manquer, vous aussi, c'est ça.
Et on revient dans un instant.
À tout de suite.
À tout de suite.
Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont d'honneur de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle, vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main-d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensez-vous qu'avec le temps, les négros muterés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromanie pompier, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narco, trafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande d'hypocrites, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tout vont combattre. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter, loin des artistes transparents? J'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.
Platine à Bavio.
De retour dans Politiquement Vôtre, toujours avec Arash Derambarche qui est au téléphone. Ça va toujours, Arash?
Ça va toujours.
On vous a pas perdu depuis entre la pause et maintenant.
Pas de problème. Je réponds à toutes vos questions, il y a pas de problème.
Bah, merci en tout cas encore une fois d'accepter d'être notre invité et de répondre à toutes les questions. Moi, je voulais vous demander comment vous vous sentez, Arash, aujourd'hui en France, avec les situations actuelles, avec tout ce qui se passe dans le pays. Comment il se sent, Arash?
Il y a une ambiance très anxiogène. On voit bien que le niveau patriotique est quand même assez morcelé. Je trouve ça dommage parce que ça veut dire qu'il y a un échec de notre terreau, de notre pays. Je trouve vraiment dommage qu'on puisse comme ça se diviser alors qu'on devrait certainement se retrouver sur des valeurs de fraternité, d'égalité, de liberté. Et malheureusement, on se divise sur des notions qui sont malheureusement externes à nos valeurs françaises. Voilà.
Et comment vous vous sentez vis-à-vis de la situation de ce qui se passe en Iran? Je vais poser la même question à Alborz. Comment vous, en tant que Français d'origine iranienne, vous vous sentez? Quel est le ressenti?
Moi, je suis français à 100% parce que je n'ai pas de double nationalité. Je suis vraiment français à 100%. Mes parents sont d'origine iranienne, effectivement. Mais moi, je suis né en France. Il n'y a aucune ambiguïté. Moi, j'ai toujours été très cohérent dans tout mon parcours. Moi, j'ai toujours été un défenseur de la laïcité. J'ai toujours été le premier critiqueur de ce régime islamiste sanguinaire. Je trouve que c'est inacceptable de porter atteinte aux droits des femmes. comme c'est toujours inacceptable d'ailleurs de porter atteinte à n'importe quel droit d'ailleurs sur la dignité humaine, et qu'une femme par exemple puisse marcher comme elle le souhaite, je dis bien comme elle le souhaite, dans tous les sens du terme, vous comprendrez en tout état de cause ce que je veux dire, et ben, elle a le droit. Si elle a envie de mettre un foulard, elle le met. Si elle n'a pas envie de mettre un foulard, ben, elle ne le met pas. Voilà. Et on n'a pas à contraindre qui que ce soit. Une femme n'est pas un animal, c'est pas un objet. Comme un être humain peut faire ce qu'il a envie à partir du moment où il ne porte pas atteinte à qui que ce soit. Voilà. Malheureusement, en Iran, il y a des atteintes très graves. Et souvent en France, d'ailleurs, beaucoup l'oublient. C'est la chance qu'ils ont de vivre dans un pays de liberté.
Oui, Arash, moi j'avais une question. Est-ce que tu es toujours en lien avec le monde de l'édition, ou c'est quelque chose qui est passé pour toi ?
Non, pas du tout. Je suis toujours ce qu'on appelle mandataire littéraire, c'est-à-dire qu'en tant qu'avocat, je suis et j'accompagne beaucoup d'auteurs.
Okay.
Pourquoi tu veux faire t'as un livre à publier ?
Je vais peut-être faire mes mémoires tome 1.
Tu veux te placer pendant l'interview ?
Exactement, j'ai la même plume, la même plume que Bruno Le Maire.
T'avais déjà une très très belle plume à l'époque.
Merci.
Mais vous avez l'air de beaucoup aimer Albor, c'est un si bon élève que ça ?
Albor, c'est un journaliste qui a une très belle plume. Voilà. Et je trouve dommage qu'il ne prenne pas encore suffisamment son émancipation. Mais je suis persuadé que c'est un garçon qui ira très très loin.
Je partage ça avec vous. Je trouve aussi ça dommage qu'ils ne prennent pas à bras le corps cette profession.
Il devrait faire plus d'enquêtes. Je trouve qu'il devrait aller sur les enquêtes. C'est un garçon, vous savez, je vais vous faire une confidence à chacun de vous. Vous ne pouvez pas faire le métier que vous faites si vous n'êtes pas un écorché vif. Quand on est journaliste, il faut être un écorché vif. Voyez, prenez par exemple chaque journaliste de Mediapart, ou chacun de ces journalistes-là, ils ont tous des parcours, ils ont tous des vies avant d'arriver là où ils sont arrivés. Albors, c'est quelqu'un qui a une histoire par rapport à ses parents, à sa famille. Et c'est quelqu'un qui est tout à fait légitime pour faire des enquêtes et qui a tout à fait une légitimité pour raconter de belles histoires. Le problème, vous savez, dans le milieu du journalisme aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de conteurs. On ne raconte plus les histoires. Les gens aiment les histoires et aiment les belles histoires. Et on est malheureusement toujours en train de faire des enquêtes de façon négative. Moi, je parlais des enquêtes positives. Et je trouve que la version un peu anglo-saxonne du journalisme manque dans ce pays, c'est-à-dire créer de la bienveillance et valoriser les personnes qui méritent de l'être. Et on en a beaucoup des forces et des énergies dans notre pays, des gens qui viennent des quatre coins de France et qui, au lieu systématiquement d'être pointés du doigt, pourraient notamment être valorisés. Et je pense qu'Albors, tu auras toute ta place là-dedans.
Merci Arash.
Quel est d'ailleurs votre rapport, vous, aux médias ? Je sais qu'en en faisant des recherches sur vous, avant de vous recevoir aujourd'hui, j'ai lu un peu, il y a eu une polémique avec Les Incorruptibles, il y a eu ça, il y a eu également une polémique dans l'émission On n'est pas couché avec Yann Moix. Quel est votre rapport avec les médias, le monde médiatique, et ce qui se dit de vous par ces gens-là ?
D'abord, Les Incorruptibles, ça n'existe quasiment plus. C'est un journal, en fait, qui s'est liquéfié, qui s'est perdu en route. Les Inrocks, moi, je lisais beaucoup quand ils faisaient des reportages sur, justement, la musique. Vous avez eu un jour deux mecs qui ont été mandatés, qui faisaient partie de la Ligue du LOL. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Ligue du LOL, c'était un groupe qui avait harcelé beaucoup de monde sur les réseaux sociaux et qui avait décidé de faire un papier absolument faux de A à Z. Et le problème, c'est que j'ai très bien compris comment ça se passait aujourd'hui dans le milieu médiatique. C'est que plus vous devenez connu, malheureusement, plus... vous êtes décrié ou en tout cas critiqué. Et peu importe si c'est vrai ou faux, il faut que ça buzz. Voilà. Et la preuve que Les Inrocks n'ont pas marché, puisqu'au final, en faisant plusieurs papiers, pas que sur moi, mais sur d'autres, ils sont rentrés dans ce système de bad buzz. Vous voyez, j'ai aucune crainte à répondre aux questions. Vous m'avez posé des dizaines de questions sur des sujets parfois qui étaient épineux, qui pouvaient me déplaire, mais je réponds, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on est dans une société de débat, de discussion, à charge et à décharge, moi, ça ne me pose aucun problème. Ce qui me pose problème, en réalité, c'est lorsqu'il n'y a pas le principe du contradictoire chez les journalistes. C'est-à-dire qu'un papier sort, on ne vous pose pas la question, on publie le papier et ensuite on vous dit « qu'est-ce que vous en pensez ?» Non, la déontologie d'un journaliste, d'abord, avant de publier un papier, c'est de faire à charge et à décharge. Voilà. Vous me parlez ensuite de la polémique qu'il y a eu sur...
Sur le plateau de On n'est pas couché avec Yann Moix.
Figurez-vous qu'Yann Moix m'a appelé un jour, il s'est excusé. Vous tapez sur Google, vous mettrez Europe 1, vous mettrez sur Google ce que je vous dis là. Yann Moix, Europe 1, Arrache en marche. Il m'a invité à de très nombreuses reprises ensuite sur son plateau pour être spécialiste avocat sur son plateau sur Europe 1. Il m'a présenté ses excuses et est devenu maintenant ami avec moi.
Ah, vous êtes maintenant ami? Bah, comme quoi, il y a des, oui, belles histoires. Et je crois qu'il y a Al Borse qui avait une question.
Et sachez-le, il m'a beaucoup... Vous pouvez l'appeler d'ailleurs, hein. Vous pouvez l'appeler, vous.
Bah, si vous avez le numéro, moi, je le prends avec plaisir.
On appellera Yann Moix.
Je peux vous le donner, vous pouvez l'appeler maintenant.
Bah ouais, moi...
Allez-y.
Bah franchement, si vous êtes chaud là pour me l'envoyer par message...
Vrai. Ouais, je peux vous l'envoyer un message, je peux l'appeler.
Bah avec plaisir.
Moi, Arash, j'avais une petite question politique. Alors, on connaît ta famille politique, les Républicains. Comment tu analyses, toi, le poste de 2022, la débâcle un peu, et comment tu vois l'avenir?
Attendez, d'abord, est-ce que vous avez reçu le numéro?
Je l'ai reçu. J'appelle tout de suite.
Voilà. Et c'était quoi la question, Alban?
Là, ma question, c'était sur ta famille politique LR. Je voulais savoir comment toi, tu as vécu un peu...
Non, mais moi, je ne partage pas tout. Je ne suis pas un béni oui-oui ou un moutre panur. Moi, je garde mes valeurs et mes principes. Moi, je considère que... Moi, je suis un gaulliste social. Ça, je considère que chacun doit être dans le terreau national. Tout le monde est français et tout le monde doit respecter les lois de la République. Voilà. C'est un pays qui est exceptionnel, qui est extraordinaire, à partir du moment où chacun le respecte. Voilà. C'est très compliqué, vous voyez, de tout de mener un pays comme ça alors qu'il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de divisions. C'est très très difficile. Mais il faut qu'il y ait de la justice. Pourquoi? Parce que s'il y a un sentiment d'injustice entre les uns et les autres, c'est là où il y a la division. Si vous voyez par exemple, et quand je vous parle d'injustice, c'est ne pas être fort avec les faibles et faible avec les forts. Voilà, c'est de ça que je parle.
Très bien. Est-ce qu'on arrive à joindre Yann Moix?
On va essayer, on a mis un...
Service Patou, bonjour, tapez le numéro.
Je te laisse, on va essayer à le bord de joindre Yann Moix.
On va essayer de le joindre. Et toi Arash, tu te situes comment un peu là par rapport à la politique actuelle d'Emmanuel Macron?
Moi, je ne partage pas tout. Je trouve qu'il y a des ministres dans cette affaire qui, visiblement, soit n'ont pas les compétences ou les connaissances. Mmh. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce gouvernement étant décrié, c'est que, visiblement, il n'accroche pas avec l'opinion publique. Il faut se demander pourquoi. Voilà. C'est toujours assez incroyable. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque la loi sur le gaspillage alimentaire avait lieu et que j'ai demandé ensuite qu'on puisse la faire appliquer, et ainsi de suite... Vous avez des ministres qui aujourd'hui sont en poste, qui à l'époque avaient piscine à ce moment-là. Et je sais parce que je connais quasiment la moitié, mais de façon voilà intime. Je vais pas citer les noms pour pas créer de polémique en antenne, mais j'en vois beaucoup là qui aujourd'hui se mettent en avant sur des sujets, on va dire entre guillemets sociaux, et qui en réalité sont dans l'hypocrisie absolue. Voilà. C'est ça. Tout ça que je n'aime pas en politique.
On va essayer de... Merci pour cette réponse. On va essayer de joindre Yann Moix tout de suite et voir ce que ça donne, s'il répond.
Bienvenue sur la boîte vocale d'Orange. Le numéro que vous appelez n'est pas disponible pour le moment.
C'est...
On lui laissera un message.
Oui. Bon, il y a Yann Moix qui n'est pas disponible pour l'instant, mais on essayera de le joindre plus tard. En tout cas, c'est bon à savoir que vous êtes toujours en contact et que ça s'est même découlé une amitié, quoi.
Ouais, bien sûr, j'ai beaucoup d'amitié pour lui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu d'ailleurs dans l'histoire de la thèse.
Il y a Bigad qui a une question pour vous.
Ouais. Vous parliez d'hypocrisie chez certains ministres, etc. Est-ce que vous pensez que... Je vais être un peu grossier, qu'il faut être hypocrite pour monter
dans la société.
Dans la société et des...
Non, vous devez toujours rester authentique et vous-même, toujours.
C'est possible de rester authentique en faisant de la politique ?
Il faut rester authentique. C'est très important, gardez votre franc-parler.
Parce que vous disiez ne pas vouloir citer de nom, on vous le reproche pas du tout, mais vous en arrivez là, c'est que c'est certaines personnes qui sont importantes qu'on connaît.
Je vais vous dire un truc qui va être un peu choquant, ce que je vais vous dire là. En France, il y a un gros, il y a un énorme racisme social. D'accord ?
Est-ce que vous pouvez nous définir racisme social selon, avec les mots d'Arash Derambarch ?
En France, on ne supporte pas les gens qui viennent de bas et qui réussissent en haut. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de racisme social en France.
Vous l'avez ressenti, vous, dans votre parcours ?
Tout le monde le ressent. Tout le monde. Tout le monde ressent. Je parle pas de racisme ethnique. Hein.
Non, non, on a bien... Racisme social, voilà.
Exactement. Moi, je parle beaucoup de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, de Stendhal. Je parle de L'Enfant de Jules Vallès. C'est de ça que je parle. C'est de ce racisme-là que je parle. Et le problème, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, en France, malheureusement, ce racisme social crée beaucoup, beaucoup de divisions. Et c'est ça que je regrette, malheureusement.
Parce que c'est ce qu'on voit, certains députés qui sont très droits, ils vont être un peu mis sous le tapis que d'autres politiciens qui vont être hypocrites, etc.
Mais regardez, si vous ne gardez pas votre authenticité, si vous ne gardez pas votre nature, vous vous perdez en route.
Mais vous ne ferez pas entendre non plus.
Comment ?
Vous aurez des chances de ne pas vous faire entendre non plus.
Mais le problème, il n'est pas de vous faire entendre ou pas. C'est ce que vous allez dire est en cohérence, en harmonie avec ce que vous êtes et qui vous êtes. Vous comprenez ?
Je comprends.
C'est ça la chose la plus importante. Est-ce que vous êtes en harmonie avec qui vous êtes et ce que vous faites et qui vous êtes ? Voilà. Si vous n'êtes pas en harmonie, vous n'arriverez pas à votre objectif.
Arash, est-ce qu'à travers votre parcours, est-ce qu'il y a eu des personnes qui vous ont inspiré ? Qui vous ont donné envie d'être là où vous êtes aujourd'hui.
Quelqu'un comme Abdelmalik, j'aime beaucoup, par exemple.
Il vous a inspiré dans quel...
Mais j'étais son éditeur quand j'étais aux éditions du Cherche Midi. Mmh. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Dominique de Villepin, que j'ai publié aussi, m'a beaucoup inspiré. J'ai eu beaucoup de personnalités comme ça qui m'ont inspiré parce que j'ai eu la chance de les côtoyer ou de les connaître. Mmh. Après, pour pouvoir m'impressionner, il faut vraiment que la personne ait pu œuvrer sur le court, le moyen terme. J'appréciais beaucoup au départ Barack Obama, mais il m'a beaucoup déçu sur sa politique étrangère.
C'est quoi qui vous a déçu exactement, si vous pouvez nous le dire en deux, trois mots ?
Bah, il y a eu quand même beaucoup de guerres quand même sur sa politique. Mmh. Le problème, vous savez, c'est qu'on vit quand même une époque où il n'y a pas beaucoup de modèles. On avait beaucoup de modèles au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Moi, je suis un amoureux, vous savez, des Lumières. Je suis un amoureux de Condorcet, moi.
C'est intéressant.
Je suis un amoureux de Cesare Beccaria. Je suis un amoureux de Badinter. Alors, vous... Ça, ce sont des gens qui m'inspirent.
Et vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a personne qui s'en ressemble à ces personnes-là, qui s'en approche ?
Malheureusement, on a les idoles qu'on mérite. Voilà. On a les idoles qu'on mérite.
J'allais
et je trouve cette époque un peu dommage. Voilà.
Laura,
je voulais vous demander par rapport au racisme social dont vous décriviez à l'instant. Ce racisme social, il vient d'où ? Ouais. Est-ce qu'il vient entre... Est-ce que ça se traduit entre ministres ou est-ce que c'est plus
pernicieux que ça ? Non, ça se traduit par le fait de vous bloquer la route, c'est le fait de... C'est ce qu'on appelle le plafond de verre.
Mais concrètement, ça se traduit comment ?
Le plafond de verre, mademoiselle. Le plafond de verre. C'est le plafond de verre. Vous savez, il y a un film qui est très fort, que vous pouvez mettre, en tout cas traduire ou adapter, c'est « Attrape-moi si tu peux ». Vous l'avez vu ce film ?
Oui, j'ai vu.
Voilà. Vous savez, Leonardo DiCaprio, c'est un film qui est tiré d'une histoire vraie. Dans ce film, Leonardo DiCaprio vient d'un milieu extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. Pour pouvoir réussir, il fraude. La fraude, c'est quelque chose qui ne doit pas être accepté ou acceptable, bien évidemment. Sauf que lui, au lieu de le verbaliser, au lieu de le condamner, vous savez ce qu'ils en ont fait à la fin du film ? Sans vouloir le spoiler. Hein.
On vous autorise à spoiler.
Les Américains lui ont proposé de travailler avec eux au sein de la FBI. Voilà. C'est-à-dire que la différence entre nous, Français, et eux, les Américains, c'est qu'ils arrivent à rationaliser et à objectiver chaque personne pour les intégrer dans une société globale. Voilà.
Vous l'avez dit, Arash, on peut... on peut parler de tout ensemble, il n'y a pas de tabou. Quel est votre regard, vous, sur la situation actuelle et le conflit israélo-palestinien? Comment vous le vivez, vous, en tant qu'humain déjà, et ensuite en tant qu'avocat et homme politique?
C'est un sujet très délicat, et on dit beaucoup de bêtises. Voilà, je vous le dis, il y a beaucoup de bêtises. D'abord, le sang coule beaucoup trop et depuis trop longtemps dans cette région. Et malheureusement, ce conflit s'exporte dans notre pays. Et c'est assez malheureux. Je regrette qu'on fasse passer un groupe terroriste pour des résistants. Le Hamas, ce n'est pas des résistants, c'est un groupe terroriste. Et comme c'est un groupe terroriste, ils ne commettent pas des crimes de guerre. Les terroristes commettent des crimes terroristes, tout simplement. Voilà. La deuxième chose, c'est que s'il y a des États qui commettent des actes à condamner, il faut le faire dans le cadre de procédures que chacun doit diligenter, et vous avez les outils chacun pour pouvoir le diligenter. Voilà. Et comme je le dis toujours, il faut aller sur le terrain pour voir ce qui se passe. Moi, je suis allé là-bas en 2014-2015. Je suis allé à Ramallah, je suis allé à Jérusalem, je suis allé dans tous ces coins-là. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on essaie de le faire croire en France avec juste une petite loupe. Voilà.
Vous êtes une personnalité publique. Est-ce que vous comprenez le procès qui est fait aux personnalités publiques de ne pas réagir à ce conflit, ceux qui ont décidé en tout cas de se taire?
Mais bien sûr, je comprends pourquoi. Parce que les personnalités qu'on pointe du doigt, c'est parce qu'ils se sont exprimés sur d'autres sujets, sur l'affaire de Naël ou sur d'autres sujets. Et donc, si vous voulez, l'opinion publique ne comprend pas pourquoi les personnalités choisiraient à la carte tel ou tel sujet. Alors, une personnalité publique, il faut vraiment le comprendre, elle ne s'appartient plus. Kylian Mbappé ne s'appartient plus. Voilà.
Vous, ça vous choque que Kylian Mbappé ne réagisse pas?
Non, c'est pas ça. C'est que s'il a décidé de se pencher ou de s'immiscer sur des sujets d'actualité, il l'a fait. Pourquoi il ne se pencherait pas sur ce sujet? À la limite, s'il ne voulait pas s'exprimer sur aucun sujet, qu'il fasse comme Zinedine Zidane. Zidane, il ne s'est jamais exprimé sur aucun sujet de société, vous pourrez regarder. Jamais il s'est exprimé sur un sujet de société. Et on ne lui en veut pas d'ailleurs, puisqu'il reste la légende.
Et du coup, maintenant, on reproche aux personnes publiques de ne pas se pencher sur certains sujets et d'autres.
Le problème, je vais vous dire ce que c'est. C'est l'époque. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut parler, tout le monde veut donner son point de vue.
Oui, mais quand on ne donne pas son point de vue, justement, on se fait juger, en fait.
Non, parce que eux, les personnes que vous me citez avaient déjà donné leur point de vue sur des sujets.
C'est ce qu'il explique. C'est qu'à la différence, voilà. C'est qu'eux ont déjà parlé sur certains sujets.
Zidane aurait été de parler sur rien. Thierry Henry ne s'est jamais exprimé sur aucun sujet. Jamais.
Donc on ne peut pas lui faire le reproche aujourd'hui. Et c'est vrai que ce n'est pas à Thierry Henry qu'on fait des reproches aujourd'hui.
Bah non, Thierry Henry, on ne va pas lui faire un reproche parce qu'il ne s'est jamais exprimé sur aucun sujet. Idem pour Zidane.
C'est le rôle du ministre de l'Intérieur de pointer du doigt des personnalités comme Karim Benzema ou quoi? Est-ce que vous trouvez, vous, que c'est son rôle?
Non. Là, c'est pour moi ce qu'a fait Gérald Darmanin. C'est pas possible. Parce que c'est inquiétant. Parce que si le ministre de l'Intérieur, maintenant, dit qu'il surveille. Vous entendez ce bruit? Ça veut dire que je m'approche du tribunal judiciaire de Bobigny.
On le rappelle, vous avez une audience.
Ouais. Mais là, surtout, c'est ce que vous entendez, c'est ce qu'on appelle les escortes. C'est-à-dire qu'on amène les personnes qui sont en détention, on les amène au tribunal. Voilà.
D'ailleurs, ce serait bien que vous nous expliquiez un peu le métier d'avocat, ce que c'est qu'une comparution. On est écouté par beaucoup de jeunes, donc ce que c'est qu'une comparution immédiate, etc. Ce serait bien qu'on ait un petit...
Il faudra en faire une émission complète de ça. Hein.
On vous réinvitera avec plaisir.
Pourquoi je vous dis qu'il faudra en faire une émission? Parce que comme ça, on prend 5 à 10 cas, par exemple, on prend 10 faits d'actualité et on les décortique.
Franchement, si vous êtes chaud, moi je vous réinvite avec plaisir pour qu'on fasse ça.
Non, mais pourquoi? Parce que c'est de la pédagogie. On peut prendre 10 cas d'actualité et on les décortique, on les analyse. Ça permettrait justement de pouvoir, entre guillemets, enlever le fantasme qu'il y a parfois sur des affaires pénales. Et surtout, ça permettrait aussi de faire de la pédagogie un peu à certaines personnes qui ne connaissent pas toujours la loi.
On va attendre vers la fin de l'émission. J'ai deux petites questions pour vous. Ouais. Avocat, c'est un métier que vous avez toujours voulu faire?
Oui, c'est une passion.
Depuis que vous êtes petit, c'est quoi qui vous motive à vouloir être avocat? C'est le fait de défendre des gens, c'est le fait de parler devant d'autres personnes.
C'est de servir la justice. Servir la justice tant sur le plan pénal que pour les mises en cause, les aider, parce que chacun a le droit à la défense, que sur le plan de la défense, parce que tout le monde, qu'une victime mérite aussi d'être défendue. Voilà.
Quels sont les projets ou objectifs actuels en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire pour vous?
Là, on bascule sur un autre sujet.
on passe du coq à l'âne.
J'ai fait une demande auprès des parlementaires, donc Karl Olive notamment et Philippe Juvin, que la loi sur le gaspillage alimentaire, donc la loi du 3 février 2016, puisse être modifiée. Concrètement, comment? Que les supermarchés de plus de 400 m² descendent au seuil de 200 m². Ça permettrait comme ça de toucher 5000 nouveaux points de vente, premièrement. Comme ça, ça permettrait d'obtenir plus d'invendus alimentaires. Deuxième point, l'amende de 10 000 euros lorsqu'un supermarché ne le jette pas puisse être relevée, puisse passer à un délit et ne plus être une contravention 5e classe, mais devenir un délit et qu'on passe l'amende de 10 000 euros à 20 000 euros. Voilà, comme ça, on touche le portefeuille des supermarchés qui jettent.
Ok, c'est donc ça les. Là, c'est ce que vous essayez de faire en tout cas.
Ça, c'est ce que. Là, il y a une proposition de loi qui est en train de passer là-dessus. Voilà, c'est un amendement de la loi de 2016. Sur votre radio.
Okay. Est-ce que les chroniqueurs ont une dernière question
J'avais une dernière question. Le projet aussi de cette loi, c'était éventuellement que ça s'étende à l'échelle européenne. Est-ce que de ce point de vue-là, 7 ans après, ça a avancé?
Alors oui, ça avance. Alors la pétition, elle a l'objectif de faire passer une pétition en forme de, sur le fondement du traité de Lisbonne. Je dis le traité de Lisbonne, c'est une pétition européenne qui est portée par un quart des membres de l'Union européenne et qui dépasse 1 million de signatures peut obtenir une directive européenne. Aujourd'hui, ma pétition qui est sur change.org, soutenue par la Croix-Rouge française, Action contre la faim, le programme alimentaire mondial des Nations Unies, est signée par plus d'1,6 million de personnes. Je suis allé dans beaucoup de pays dans l'Union européenne. La loi est passée notamment en Espagne, en Italie, en Roumanie notamment. Donc on est sur la bonne voie. Je suis également allé dans plus de 40 pays dans le monde et beaucoup de pays dans le monde, notamment le Congo-Brazzaville, Mexique et d'autres, ont fait passer la loi également, et le Chili aussi notamment.
Vous parliez tout de suite du Congo. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement?
C'est votre pays, c'est ça?
Non, nullement.
Comment?
C'est pas mon pays, je suis tunisien algérien d'origine.
Ah, d'accord. Mais c'est pas au Brazzaville, c'est ça? Vous posez comme question?
Voilà, qu'est-ce que vous pensez du génocide qui se passe actuellement et,
au Congo-Brazzaville, un génocide?
Oui. C'est au Congo, je sais pas si c'est celui de Kinshasa ou celui de Brazzaville, mais je sais qu'il y a un génocide actuellement avec 6 millions de morts.
À ma connaissance, il n'y a pas de... En ce moment, il n'y a pas de génocide au Congo-Brazzaville, là, en ce moment.
Non, je crois que c'est celui à Kinshasa.
Ah bah oui, c'est un terme très fort que vous utilisez, c'est pour ça. Je n'ai pas connaissance qu'il y a un génocide en ce moment à Kinshasa, c'est pour me développer, je n'ai pas connaissance de ça.
Alborz, une question pour Arash.
Une question beaucoup plus légère, Arash, et il va falloir se mouiller un peu. On te voit souvent dans les travées du Parc des Princes ou du Stade de France.
Pas toujours,
mais parfois. et du coup, quel est ton pronostic là, pour cette saison du Paris Saint-Germain? Est-ce que cette année, c'est la bonne?
Non, moi je ne suis pas fan de Ousmane Dembélé, je le dis honnêtement.
Vous êtes supporter du PSG, Arash?
Mais depuis tout petit.
C'est maintenant qu'on annonce la fin de l'émission, alors.
Il y avait Bujovic et Susic dès le départ. Et Daniel Bravo.
Vous parlez à un supporter de l'OM.
Ouais, mais l'OM a le niveau pour battre l'AEK Athènes et c'est très bien. Avec deux pénaltys d'ailleurs, avec deux pénaltys.
Bah, il y a quand même un très bon match dans le contenu.
C'est intéressant parce que l'AEK Athènes comporte deux joueurs iraniens, vous voyez.
Exactement.
Je dis sous l'autorité de Albarz.
C'est vrai.
Mais non, je pense que Paris cette année ne gagnera pas la Champions League. Donc je le pense pas. Même contre Milan, on n'a pas été très bon, il faut dire la vérité.
Bah, 3-0 quand même.
Oui, mais 3-0 parce qu'en face, on a une bonne équipe. C'est pas le vrai Milan des années 90. Pardon, mais on n'a pas une bonne équipe.
Avec Maldini, Ronaldinho à l'époque.
Non, vous jouez contre Manchester City. On joue contre le Bayern ou contre le Real, c'est pas la même chose. Et je prends les paris, vous verrez. Je pense Je pense que Paris peut même ne pas être champion cette année.
Pour finir, on va finir sur ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Arash Derambarj pour la suite ?
Continuer à servir tout le monde dans un pays absolument serein. Voilà.
Bah, on vous le souhaite. Merci beaucoup Arash d'avoir été notre invité. On vous sollicitera encore pour d'autres.
Donc à bientôt pour les affaires juridiques.
À très bientôt même. C'est noté. On vous sollicitera. Je vous le disais pour d'autres émissions. Merci beaucoup Arash d'avoir été notre invité. Merci à vous aussi d'avoir été autour du plateau. Merci. C'est pas facile. On le redit aux auditrices, auditeurs. Moi, c'est la première fois que je fais une
interview téléphonique.
Téléphonique, c'est pas facile. C'est pas ce qu'il y a de plus simple pour les échanges et pour la compréhension des uns et des autres. Mais bon, c'est les aléas du travail. Il faut faire avec. Faut accepter aussi. C'est le rôle, c'est notre rôle à chacun de s'adapter aux situations qui nous sont offertes. Mais merci en tout cas d'avoir joué les jeux. Merci d'avoir été autour de la table. On se retrouve quant à vous, auditrices, auditeurs, dès le mois prochain pour un nouvel épisode de Politiquement Votre. Cette fois-ci, l'invité, on vous le promet, il sera en plateau. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous. Cette émission est disponible en podcast sur monparisfm.com et téléchargeable sur toutes les plateformes légales de téléchargement de podcast. Merci à Jason Linder qui a réalisé émission et merci à tous nos partenaires qui nous ont aidés à la création de cette émission. Passez une belle soirée et prenez soin de vous.